Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Kama, page 67, Dav Samer Zain. Bonne écoute et bon limoud.
De ceux qui veulent se repentir, Halavachi, mais si ce n'était pas pour cela, Hadar Bene, le voleur aurait dû rendre la poutre elle-même au propriétaire, et cela même si le nom de cet objet volé, de cette poutre, a changé. L'agma répond à Marav Yosef, Merish Shemo Alav. La poutre garde son nom même après qu'elle était employée dans la construction. C'est pour cela donc qu'il n'y a pas eu ici de changement du nom de l'objet volé. C'est pour cela donc que le voleur n'a pas acquis la poutre. Par conséquent, si ce n'était l'institution des Chachamim, le voleur aurait dû la rendre à son propriétaire. Voir le Tosfot. D'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta qui interprète les psukim dans Yehezkel Memalev, il s'agit d'une prophétie concernant le troisième Beth Amikdash. Alors le pasouk dit, sur différentes parties de cette construction qui était en bois, Tzalot Habayit, la Braïta interprète, Elou Hamelatetin, ce sont les encadrements de portes et de fenêtres, Veha Ovim, Elou Hamerishot, ce sont les poutres qui serviront de toit. Nous voyons donc que les poutres ont gardé leur nom même après la construction. Rabbi Zera Amar, Shinui Hachozer le Briato Beshinui Hashem, la transformation du nom de l'objet volé qui peut revenir à son état d'origine, Loha Beshinui, n'est pas considérée une transformation. Par conséquent, même si la poutre a changé de nom lorsqu'elle a été utilisée dans la construction, mais si on fait ressortir celle-ci de la construction, par exemple si on détruit cette construction, la poutre revient à son état d'origine, on l'appellera à nouveau poutre. C'est pour cela donc que la transformation du nom de cette poutre ne sera pas considérée une transformation, le voleur ne l'aura pas acquise. Par contre, quand nous parlons d'une peau qui a été transformée en nappe, donc elle a subi la transformation du nom, celle-ci ne reviendra plus à son état d'origine. On n'appellera plus cette nappe une simple peau. C'est pour cela donc que le voleur aura acquis cette nappe et sa décision influera sur le statut de l'objet comme nous l'avons vu dans la Mishnah plus haut. Nous avons fini ici le shiur de Baba Kama d'Av Samer Vav. Nous commençons le shiur de Baba Kama d'Av Samer Zain à la cinquième ligne du haut de la page. Nous avons vu jusqu'à présent une discussion entre Rabba et Rav Yosef. Selon Rabba, le désespoir du propriétaire va permettre au voleur d'acquérir l'objet volé. La question se pose cependant si cette acquisition sera Minatora ou Midrabanan. Selon Rav Yosef, par contre, le désespoir du propriétaire ne permettra pas au voleur d'acquérir l'objet volé. Cependant, comme la Gemara l'a précisé, si l'objet volé a subi en plus une transformation de son nom, le voleur acquérira l'objet volé. Rabbi Zera avait précisé cependant que s'il s'agit d'une transformation de nom qui peut revenir à son état d'origine, cette transformation ne sera pas considérée comme une transformation. La Gemara demande, Veshinui Hashem Sheno Choser le Briato, et une transformation du nom de l'objet volé qui ne peut pas revenir à son état d'origine, Miha Veshinui, est-ce que cela sera considéré comme une transformation qui permettrait au voleur d'acquérir l'objet volé? Veharetinor, voici qu'à propos du tuyau de Mikara Ketitsta, qui au départ était un simple morceau de bois, Veshtatsinora, et maintenant il a été transformé en tuyau. Quand même, la Braïta dit, comme nous le verrons par la suite, que cette transformation n'en sera pas une. Il s'agit des lois concernant le bain rituel. En effet, le mikvé, donc le bain rituel, doit contenir une quantité de 40 séas d'eau qui est parvenue dans ce bassin d'une manière naturelle. Il faudra que cette eau n'ait pas été contenue dans un ustensile. Si celle-ci ou une partie de cette eau a été contenue dans un ustensile, le mikvé ne sera pas bon. Alors, Vetania, il a été enseigné dans une braïta à ce sujet. Tsinor, Shechakeko Ulbasov Kavo, un tuyau qui aurait été creusé ou façonné dans un morceau de bois, de manière à ce que celui-ci contienne. C'est-à-dire, il n'a pas été façonné comme un simple tuyau qui a seulement deux bords, mais celui-ci a été façonné de manière à ce que celui-ci ait quatre bords, de manière à ce que l'eau soit contenue dans ce tuyau avant de poursuivre son chemin. Donc, une personne qui aurait façonné ce tuyau, puis l'aurait fixé à terre, sur le chemin qui mène vers le bain rituel, donc l'eau qui arrive dans ce bain rituel passe par ce tuyau, possède un mikvé, celui-ci rendra le mikvé pasoul, parce que finalement, toute l'eau qui est rentrée dans ce mikvé est passée par ce tuyau, a été donc contenue dans un ustensile. Par contre, Kav'o ulbasov chakeko, s'il a d'abord fixé le morceau de bois par terre, puis seulement après, il l'a creusé ou il l'a façonné, et non possède un mikvé, ce tuyau ne rendra pas passoul le mikvé. En d'autres termes, l'eau qui est passée par ce tuyau n'est pas considérée comme étant passée par un ustensile. Et cela parce que le morceau de bois qui servira par la suite de tuyau a été fixé au sol avant d'avoir été façonné. Ce morceau de bois a été donc annulé par rapport au sol et nous considérons donc que ce tuyau est en fait un simple creux dans le sol qui ne rend pas passoul le mikvé. C'est pour cela d'ailleurs, comme le précise la Shittam Kubetzet, que la transformation physique de ce morceau de bois ne dérange pas la Gemara, puisque finalement nous considérons que cette transformation a eu lieu dans le sol. Cependant, la Gemara demande, Vei amar chinu yashem iltahi, si tu dis que la transformation du nom de l'objet est considérée comme quelque chose d'important, afilu kavo ulbasov hakekonami le pasel, même s'il a fixé le morceau de bois au début, et puis seulement après il l'a creusé ou il l'a façonné, on aurait dû dire que le mikvé devienne pasoul, parce que finalement, ce morceau de bois s'appelle maintenant tuyau, et l'eau est passée par ce tuyau, qui est un ustensile. L'agma répond, Shani Sheiva. Les lois concernant l'eau puisée sont différentes des midrabananhi, parce que le fait que l'eau puisée rende le mikvé pasoul, ce n'est que midrabanan. C'est pour cela que les chachamim n'ont pas été aussi stricts, et il considère qu'une fois que le tuyau est fixé au sol, celui-ci n'est plus considéré comme un tuyau, mais comme un creux dans le sol, qui ne rendra pas pasoul le mikvé. La Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi, afilou derechanami, même dans le cas du début de la Braïta, on devrait dire la même chose, puisque finalement, il est vrai que ce tuyau a été façonné avant que celui-ci ait été fixé au sol. Maintenant qu'il est fixé au sol, nous ne devrions pas le considérer comme un ustensile, mais comme un simple creux dans le sol, qui ne rendra pas pasoul le mikvé. La Gemara répond, Hatam ika torat kli alav betalush. Là-bas, dans le premier cas de la Mishnah, ce tuyau a été déjà considéré comme étant ustensile alors qu'il était détaché du sol. C'est pour cela que même quand on l'a fixé au sol, il n'a pas perdu son caractère d'ustensile. Haha, mais dans le deuxième cas de la Braïta, En torat kli alav betalush, ce tuyau n'avait pas été considéré comme ustensile alors qu'il était détaché, parce que celui-ci n'a été façonné que une fois le morceau de bois fixé au sol. C'est pour cela que ce tuyau ne sera pas considéré ustensile, mais un simple creux dans le sol. La Gemara revient maintenant à la discussion entre Rabba et Rav Yosef que nous avons mentionné plus haut. Alors, l'opinion de Rav Yosef était que le désespoir du propriétaire ne permettra pas au voleur d'acquérir l'objet volé. La Gemara demande, mais Tivé, on a objecté là-dessus à partir d'une braïta. La braïta dit, Haganav. Le voleur, il s'agit ici, comme la Gemara l'explique plus loin, d'Avkouf Yidal et Tamoudbet, d'un voleur à main armée. Veha Gazlan, ou bien le voleur en présence du propriétaire. Veha Anas, est celui qui achète un objet contre la volonté de son propriétaire. Quand même, Hekdeshan, Hekdesh, s'ils veulent sanctifier l'objet, leur Hekdesh prendra effet, ou Trumatan Truma, s'ils prélèvent ses fruits en tant que Truma sur d'autres fruits, leur Truma prendra effet. Ou Masotan Maaser, s'il désigne ses fruits en tant que Maaser sur autre chose, ce Maaser prendra effet. Finalement, nous voyons donc que si le propriétaire s'est désespéré de retrouver l'objet, le voleur a acquis l'objet. Sinon, il ne pourrait pas désigner ses objets ni en tant que Hekdesh, ni en tant que Truma, ni en tant que Maaser. L'Agma répond, Amré, les Chachamim ont répondu là-dessus, Hatam Ika Shinu Yashem. Là-bas, il y a une transformation du nom de l'objet volé. Demeikara Tivla. Au départ, ces fruits étaient considérés Tevel, dont on n'a pas prélevé la Truma ou le Maaser. Dehashta Truma. Et maintenant, ces fruits ont été désignés comme Truma. Hekdesh. Quand nous parlons du Hekdesh, Meikara Chulin. Au départ, ces objets étaient simplement Chulin, c'est-à-dire profanes. Vehashta Hekdesh. Maintenant, ils ont été sanctifiés. Il s'agit donc d'une transformation du nom de l'objet volé. Et c'est pour cela donc qu'en association avec le désespoir du propriétaire, le voleur aura acquis l'objet volé et ses désignations de Hekdesh, Truma et de Maaser prendront effet. Il est vrai qu'il s'agit d'une transformation du nom de l'objet volé qui peut revenir à son état d'origine, parce que celui qui désigne un objet comme Hekdesh, Truma ou Maaser peut se rétracter et annuler sa désignation. Cependant, comme l'explique le Rashba, puisque cette annulation ne peut se faire qu'en présence de trois personnes, quand nous parlons du voleur ou de la personne qui a fait cette transformation, celui-ci ne peut pas tout seul annuler cette transformation. C'est pour cela que cette transformation sera considérée une transformation qui permettra au voleur d'acquérir l'objet volé. Amar Rav Chisda, Amar Rav Yonatan, Minayin Leshinui Sheukone, d'où savons-nous qu'une transformation physique de l'objet volé permettra au voleur d'acquérir celui-ci? Alors il répond, Shenema, parce que le pasouk dit dans Vaikrahe, concernant une personne qui se dérobe du paiement d'une dette par le moyen d'un faux serment, alors quand celui-ci avoue sa faute et veut se repentir, le pasouk dit Veshiv et Akzela, et il rendra l'objet volé. Le pasouk continue et dit Asher Gazal qu'il a volé. Alors la question se pose, Matalmud Lomar Asher Gazal, que veut le pasouk nous enseigner en ajoutant ces termes qu'il a volé? Il est évident que s'il s'agit d'un objet volé, celui-ci a été volé. Alors Rabbi Onatan répond, Imken Shel Gazal, si l'objet se trouve dans son état où il a été volé, Yarzir, le voleur devra rendre l'objet lui-même. Mais Imlav, mais si l'objet volé ne se trouve plus dans l'état où il a été volé, Damim Be'alma Ba'eshiloumé, le voleur devra simplement rendre la contre-valeur de l'objet, mais il n'aura pas l'obligation de rendre l'objet lui-même. Alors la Gemara demande, Hay Asher Gazal, ces termes de Asher Gazal qu'il a volé, Mivae, on a besoin pour apprendre autre chose. L'imiouté Gezel Aviv, pour exclure un objet volé par son père, chez Eno Mosif Chomesh Al-Gezel Aviv. De là, nous apprenons qu'une personne ne devra pas payer le supplément d'un cinquième pour un objet volé par son père sur lequel il aurait prêté un faux serment. Donc finalement, comment pouvons-nous apprendre de là aussi que si l'objet a subi une transformation, que le voleur pourra se suffire de payer la contre-valeur de celui-ci? L'agma répond, Imken Nirtav Rachamana Veishibek Zelo. Si c'était simplement pour exclure l'objet volé par son père, le pasouk aurait dû dire, et il rendra son vol. Asher Gazal Lamali le Mirtav. Pourquoi est-ce que le pasouk a eu besoin d'écrire qu'il a volé? Shmamina. L'agma conclut là-dessus. On peut déduire de là, tarté, deux lois. Premièrement, nous exclurons l'objet volé par son père, sur lequel il ne devra pas payer le supplément d'un cinquième. Deuxièmement, nous apprendrons aussi que le voleur ne devra rendre l'objet volé que si celui-ci se trouve dans l'état où il a été volé. Sinon, le voleur pourra se suffire de payer la contre-valeur de cet objet. Veikade Amré, il y a une deuxième version qui ramène cet enseignement de Rav Chisda au nom de Rabbi Yonatan. Amar Rav Chisda, Amar Rabbi Yonatan, Minayin Lishinui Shenokone, d'où savons-nous qu'une transformation de l'objet volé ne permettra pas au voleur de l'acquérir? Comme le Tosfot explique plus haut, d'Afsamehe Amudbet, il s'agit ici d'une transformation qui peut revenir à son état d'origine. Enchaîné Mar, parce que le pasouk dit, Beheshiv et Akzela, Mikol Makom, le voleur rendra l'objet volé, de toutes les manières, même si celui-ci a subi une transformation. Alagmar demande, Vaaktiv Asher Gazal, voici que le pasouk ajoute qu'il a volé. De là, nous avons déduit que s'il ne se trouve plus dans l'état où il a été volé, le voleur n'a plus besoin de rendre l'objet lui-même. L'agma répond, Hahumi Vaele, nous avons besoin de ces termes pour nous apprendre la halakha suivante, Al Gzelo Shelo Mosif Romesh, sur l'objet qu'il a volé lui-même et sur lequel il a prêté un faux serment, il devra ajouter le supplément d'un cinquième, Ve'en Mosif Romesh Al Gzel Aviv, mais il n'aura pas l'obligation de payer le supplément d'un cinquième pour un objet volé par son père sur lequel celui-ci aurait prêté un faux serment. Amaroula, Minaïn, Leyushenokone, d'où savons-nous que le désespoir du propriétaire ne permet pas au voleur d'acquérir l'objet volé? Il répond, Shenema, parce que le pasouk dit dans Malachi Aleph. Il s'agit d'un reproche qu'Akadosh Baruch Hu fait au Bnei Israël par l'intermédiaire de Malachi. Alors le pasouk dit, Vahavetem Gazul et Hapiseach ve et Acholé, et vous amènerez comme korban sur le Misbeach un animal volé, ou bien un animal boiteux ou un malade. Alors le pasouk a juxtaposé l'animal volé à l'animal boiteux. Nous pouvons déduire de là, Gazul Dumia de Pisseach. L'animal volé a le même statut que l'animal boiteux. Ma Pisseach de l'Etleta Kantaklal, de la même manière que l'animal boiteux n'a aucune réparation, c'est-à-dire il sera toujours pasoul comme Corban. Il ne sera jamais guéri. Nous tournons la page à Daf Samerzain Amudbet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On la page Adav Samerzain Amudbet. Av Gazul de Letleta Kanta. Nous pouvons déduire aussi que l'animal volé n'a aucune réparation possible. Il ne pourra jamais être offert en tant que korban sur le Misbéach. L'oshana lifnei yush, veloshana achar yush. Il n'y a pas de différence que ce soit avant le désespoir du propriétaire ou que ce soit après le désespoir du propriétaire. De là, nous voyons donc que le voleur n'aura pas acquis l'objet volé après le désespoir du propriétaire. Rava Amar, Rava Dimeacha, nous l'apprenons d'ici. Il s'agit d'une breita qui interprète le pasouk dans Vaïkra Alev concernant l'offrande des korbanot. Le pasouk dit korbano, son korban. De là, nous apprenons velo hagazul. Nous exclurons l'animal volé. Celui-ci ne peut pas être offert en tant que korban. La Gemara comprend ici que le voleur ne pourra pas désigner un animal volé en tant que korban. Alors la question se pose, Emat, de quand ou de quelle situation parle le pasouk? Il est malifnei yush, le pasouk parle avant que le propriétaire ne se désespère de retrouver l'animal. Pshita, c'est évident, la malikra, pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk? Il est évident que le voleur ne pourra pas désigner un animal volé en tant que korban, avant que le propriétaire ne se soit désespéré de retrouver l'animal. Et la lave, n'est-ce pas donc l'achar yush, que le pasouk vient nous enseigner que même après le désespoir du propriétaire, le voleur ne pourra pas désigner celui-ci comme korban. Ushma mina, nous pouvons donc déduire de cette braïta, yush lokane, que le désespoir du propriétaire ne permettra pas au voleur d'acquérir l'animal. Ushma mina, la Gemara conclut effectivement, c'est une bonne preuve. Or, la Gemara demande, Veha Rava Uda Amar, voici que c'est Rava lui-même qui a dit et qui a interprété la Braïta de la manière suivante. Des Gazal, Korban, des Chavré. Il s'agit d'un cas où le voleur a volé un animal qui avait été désigné en tant que Korban, et le Pasouk nous enseignerait donc que ce Korban ne serait pas accepté des mains du voleur. Mais il ne s'agit pas d'un cas où le voleur désigne l'animal volé en tant que Korban. La Gemara répond, Ibaïtema, si tu veux, je te dirai Hadarbe, Rava a changé d'avis et s'est rétracté de cette interprétation de la Braïta. Et finalement donc, son avis final est qu'il déduit de cette Braïta que le désespoir du propriétaire ne permet pas au voleur d'acquérir l'animal. Vi baïtema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Chad minayu Rav Papa Amra, l'un des deux enseignements, c'est Rav Papa qui l'a dit. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Umidat tashlume arba vachamisha », etc. Alors que l'obligation de payer l'amende du paiement quadruple ou quintuple n'existe que chez le bœuf et chez le mouton. C'est-à-dire, celui qui abat ou vend un bœuf volé devra payer 5 fois la valeur de celui-ci, et s'il le fait à un mouton, il devra payer 4 fois la valeur de celui-ci. Mais s'il s'agit d'un autre animal, il n'y aura pas cette amende du paiement quadruple ou quintuple. La Gemara demande, Vamai, pourquoi Nelav, Shor, Shor, Mishabat? Nous n'avons qu'à déduire d'une Xera Shabbat à partir du terme de Shor, enseigné à la fois concernant celui qui abat ou vend un bœuf volé, et à la fois concernant l'interdiction de faire travailler les animaux le Shabbat. Nous n'avons qu'à déduire donc, de la même manière que concernant l'interdiction de faire travailler les animaux le Shabbat, les animaux sauvages et les oiseaux ont le même statut que le bœuf. Finalement donc, une personne n'aura le droit de faire travailler aucun animal. Nous n'avons qu'à dire aussi, concernant celui qui abat ou vend l'animal qu'il a volé, que l'animal sauvage et l'oiseau auront le même statut. Et il devra payer aussi l'amende du paiement quadruple ou quintuple. La Gemara répond à Marava, à Magra, Shorvese, Shorvese, Shnepamim. La Gemara, dans ce paragraphe concernant celui qui abat ou vend un bœuf ou un mouton, dans Shemot Kafalev, la Torah répète à deux reprises les termes de Shorvese, bœuf et mouton. Nous apprenons de là, Shorvese in, cette loi ne concerne que le bœuf et le mouton, Midachinelo, mais aucun autre animal. Alors, Amré, les Chachamim ont posé la question suivante, Hemaitar, quels sont les termes de bœuf et mouton qui sont en plus? Ilema, Shor, Vesede, Sefa, Maitar, si tu veux dire que c'est les termes de bœuf et mouton qui sont enseignés à la fin de ce paragraphe qui sont en plus, c'est-à-dire, Denichtov, Rachamana, que le pasouk écrive, qui ignove, Shor, Ose, si une personne vole un bœuf ou un mouton, ou un agneau, ou Tvachom, Charo, et il l'a abattu ou l'a vendu, Chamisha, Bakar, Shalem, Tartav, il payera 5 gros bétail à sa place, Verbatson, Tartav, et 4 petits bétails à sa place. On aurait déduit de là donc que quand nous parlons de gros bétail, c'est pour celui qui a abattu ou a vendu un bœuf, et quand le pasouk parle de petit bétail, c'est pour celui qui aura abattu ou vendu un mouton. Alors, la Gemara réfute cette possibilité. Elle dit que les termes de Shor et de Se à la fin du paragraphe ne sont pas en plus, parce que Ikatav Rachamana Achi, si le pasouk s'était exprimé de cette manière, Avamina, j'aurais cru, Baël Shulume, Tisha le Kolechad Vechad, qu'une personne qui abat un bœuf qu'il a volé ou qu'il a vendu, devra payer 9. La valeur de 9 animaux, c'est-à-dire 5 gros bétails et 4 petits bétails. Et c'est pour cela donc que la Torah a eu besoin de préciser que 5 gros bétails seront payés à la place du bœuf et 4 petits bétails à la place du mouton. Vechitema, et si tu veux me réfuter ce raisonnement en disant Haktiv Tartav, Tartav, voici que le pasouk répète à deux fois le terme de Tartav à sa place. Chad Tartav Miater, un des termes de Tartav à sa place, et en plus, forcément, ce serait pour nous enseigner que 5 gros bétails seront payés à la place du bœuf abattu, et 4 petits bétails seront payés à la place du mouton abattu. L'Agmar dit, ce n'est pas vrai. Le terme de Tartav ne sera pas en plus, parce que Haoumiva Ele, le Drasha Harina, parce que nous avons besoin le terme de Tartav pour une autre Drasha, de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta. Yachol Ganav Shor Shave Mané, si une personne a volé un bœuf ayant une valeur d'un mané, Yeshalem Tartav Negidim, on aurait pu croire que pour le paiement de cette amende, du paiement quadruple ou quintuple, il puisse donner en échange des bœufs mourants ou faibles. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk nous enseigne Tartav, Tartav, à sa place, en d'autres termes, il devra donner 5 gros bétails ayant la même valeur que le bœuf abattu. Ou bien, il devra payer 4 menus bétails ayant la même valeur que le mouton abattu. Donc finalement, puisque ces termes de Tartav sont employés pour une autre dracha, on n'aurait pas pu déduire du terme de Tartav que le paiement de 5 menus bétails est effectué pour l'abattage d'un bœuf volé et le paiement de 4 menus bétails est obligatoire pour l'abattage d'un mouton volé. On aurait pu croire donc que si une personne abat l'animal volé, il devra payer la valeur de 9 animaux, comme nous l'avons dit. C'est pour cela donc que les termes de Shor et Se enseignés à la fin de ce paragraphe ne sont pas superflus. Nous sommes Baba Kama Daf Samer Zayin Amud Bet, à la 5e des grandes lignes. La Gemara essaye d'établir d'où savons-nous que l'amende du paiement quadruple ou quintuple n'est appliquée que pour le cas de l'abattage ou de la vente d'un bœuf ou d'un mouton volé, et non pas pour un autre animal. La Gemara a répondu là-dessus que nous l'apprenons parce que les termes de bœuf et de mouton est répété à deux reprises dans le paragraphe concernant cette loi, ce qui est superflu. La Gemara essaie de définir quel est le terme de bœuf et mouton qui sont en plus. La Gemara déjà a réfuté la possibilité que le terme de bœuf et mouton à la fin du paragraphe sont superflus. Alors la Gemara dit, et la shor vese de resha miyuta. Pour cela que nous dirons que les termes de bœuf et mouton au début de ce paragraphe sont en plus. La Gemara précise, de nirtov rachamana, parce que le pasouk aurait dû dire, ki ignof ish utvachom charo, si une personne vole quelque chose et l'a abattu et l'a vendu, chamisha bakar eshalem tachat ashor, il payera 5 gros bétails à la place du bœuf, varbatson tachatase, et 4 menus bétail à la place de l'agneau. De là, nous aurions déduit que le pasouk parle d'une personne qui a volé et a abattu un bœuf ou un mouton. Pourquoi est-ce que le pasouk a donc précisé au début de ce paragraphe qu'il s'agit d'une personne qui a volé un bœuf ou un mouton? Forcément, c'est pour nous enseigner que ce n'est que pour le vol d'un mouton ou d'un bœuf que cette loi sera appliquée. La Gemara réfute, Ikatavachmanachi, c'est le pasouk qui s'est exprimé de cette manière. Havamina, j'aurais cru que cette loi ne sera appliquée à Deganiv, Trevetavachleu, jusqu'à ce qu'il vole les deux, c'est-à-dire un bœuf et un mouton, et il les a abattus. Ce n'est que dans ce cas qu'il paiera l'amende du paiement quadruple et quintuple. La Gemara répond, ce n'est pas possible parce que Utvachoktiv, et il l'a abattu l'Echad, à un seul animal. C'est-à-dire, le pasouk s'exprime au singulier pour nous enseigner que même si c'est un seul animal qui a été volé et abattu, cette loi sera appliquée. Donc finalement, les termes de Shor et de Se au début de ce paragraphe sont en plus. Alors la Gemara demande si le pasouk avait omis de préciser les termes de bœuf et agneau au début de ce paragraphe. Ve'ema, j'aurais pu dire, adeganiv tarvayu, jusqu'à ce qu'il vole tous les deux, c'est-à-dire un bœuf et un mouton, au masbin lehu, et il les a vendus. Ce n'est que dans ce cas que sera appliquée l'amende du paiement quadruple et quintuple. La Gemara répond, umecharoktiv, et il l'a vendu, l'echad. Un seul animal, le pasouk s'exprime au singulier pour nous enseigner que même si c'est un seul animal qui a été volé et vendu, cette amende sera appliquée. Finalement donc les termes de Shor et de Se au début de ce paragraphe sont en plus. La Gemara demande si le pasouk avait omis de préciser ces termes de Shor et Se au début de ce paragraphe, Vehema, j'aurais pu dire Hava Amina Ad Deganiv Tre Vetavachad Umasbinchad, que cette amende ne sera appliquée que jusqu'à ce qu'une personne vole à la fois un bœuf et un mouton, et il en a abattu un, et l'a vendu l'autre. La Gemara répond, Om Charoktiv, le pasouk dit, où il a vendu. Le terme de O est superflu pour nous enseigner que même si c'est un seul animal qui a été volé ou vendu, cette amende sera appliquée. La Gemara demande, va katea va mina. Et encore, j'aurais pu quand même penser et dire, adeganiv tarvayu, que cette amende ne sera appliquée que jusqu'à ce que cette personne vole les deux animaux, c'est-à-dire un bœuf et un mouton, betavachad ou meshaerchad. Et il en a abattu un, il a gardé l'autre. Oh, masbinchad ou meshaerchad. Ou bien, s'il a vendu l'un des deux animaux et il a gardé l'autre. C'est pour cela donc que le pasouk a eu besoin de préciser au début de ce paragraphe bœuf et agneau pour nous enseigner que même s'il a volé un seul de ces animaux et l'a abattu ou l'a vendu, cette amende sera appliquée. Finalement donc, quels sont les termes de shor et de se qui sont superflus pour nous enseigner que cette amende ne sera appliquée que pour le bœuf ou le mouton? L'Agma répond, et la shor de sefa vese de recha meater. C'est pour cela que nous dirons que le terme de bœuf enseigné à la fin de ce paragraphe et le terme d'agneau enseigné au début de ce paragraphe qui sera superflu. Denirtov Rachamana, parce que le pasouk aurait pu dire et s'exprimer de la manière suivante. Ki gnov ish shor, si une personne vole un bœuf, utvacho umcharo, et l'a abattu ou l'a vendu, chamisha bakar shalem tartav, il paiera 4 gros bétails à sa place, verbatson tachatase, et 4 menus bétails à la place de l'agneau. Sous-entendu, s'il s'agissait d'un agneau, cette personne devra payer 4 fois la valeur de cet agneau. Donc, shor de sefa vese de recha lamali, pourquoi est-ce que le pasouk a enseigné le terme de shor à la fin de ce paragraphe et le terme de se au début de ce paragraphe? Shmamina, c'est pour nous enseigner, shor vese in, cette amende ne sera appliquée que pour le bœuf et l'agneau, midea harinelo, mais pour un autre animal, cette amende ne sera pas appliquée. Nous avons fini ici le shiur de Baba Kama Daf Samer Zayin. Nous commençons le shiur de Baba Kama Daf Samer Chet. Nous commençons Daf Samer Zayin Amud Bet, au deux points, la cinquième ligne du bas de la page. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « En hagonev achar aganav meshalem tashlume kefel » Celui qui vole d'un voleur ne payera pas l'amende du double paiement. Là-dessus, la Gemara dit « Amarav, lo shano ela lifnei yush » Nous ne disons cela que le deuxième voleur ne paye pas l'amende du double paiement que si le propriétaire ne s'était pas désespéré de retrouver l'objet volé. Finalement donc, l'objet volé n'appartient pas encore au voleur. Le deuxième voleur donc ne payera pas l'amende du double paiement. Aval la hariouche, mais après que le propriétaire se soit désespéré de retrouver l'objet volé, knao ganav rishon, le premier voleur a acquis l'objet volé. Par conséquent, veganav sheni meshalem tashlume kefel le ganav rishon, le deuxième voleur payera l'amende du double paiement au premier voleur, puisque finalement ce deuxième voleur a volé un objet appartenant au premier voleur. Amar Rav Sheshet, Amina, j'ai dit, Kinaim veshachiv Rav Amar le Hashmata. Quand Rav était couché et endormi, il a enseigné cet enseignement. Et cela parce que voilà, nous avons vu des Tanya dans une Braïta. Amar Rabbi Akiva, Mipnema Amra Torah Tavach Umachar Meshalem Tashlume Arba Avachamisha. Pourquoi est-ce que la Torah dit que celui qui abat ou vend un animal qu'il a volé, il paiera l'amende du paiement quadruple ou quintuple? Rabbi Akiva répond, Mipne Shinishtaresh Bechet, parce que le péché de ce voleur a pris racine. En d'autres termes, il a aggravé sa faute en éloignant l'objet volé encore plus de son propriétaire, en le vendant ou en l'abattant. La Gemara demande, Emat, de quelle situation s'agit-il? Quand est-ce que cela se passe? Il est malifneyouj, si c'est avant que le propriétaire se désespère de retrouver l'animal en question. Nous passons à Daf Samechet Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.